ça.
Bien. On va continuer la préparation pour Shavuot. Dans le tour, il ramène Noagim b'cholam komot shelo lisa isha ben pesach la'atzeret. On a l'habitude dans tout le clan d'Israël, c'est le tour qui parle, il parle essentiellement des minagim plutôt ashkenaz, bien que il ait été élevé probablement au pays Sfarad. On a l'habitude de ne pas se marier entre Pessah et Shavuot. Ve'atam, la raison en est, shelo la'arbot besimcha, on ne veut pas se multiplier, on veut pas multiplier les joies à ce moment-là, parce que ça correspond au moment où les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts. Tous les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000, là, sont morts. Alors évidemment, ce que dit ici le tour, ça correspond à ce qui est dit dans la Gemara, dans Sefer Bamot, où on a dit que il y avait 12 000 paires d'élèves chez Rabbi Akiva, qui étaient répartis à plusieurs endroits dans le pays. Bekulan metu beperek echad, et ils sont tous morts au même moment. Mipne, enfin au même moment, c'est dans cette même période là. Mipne shelonagu kavod zebeze, puisque ils ne se sont pas donner de kavod, donc de poids, les uns aux autres. Et donc, ils ont tous disparu. Ad sheba Rabbi Akiva, et c'est le raboté, nous sheba darom. Après la disparition de tous ses élèves, Rabbi Akiva est allé auprès de maîtres qui étaient dans le sud du pays. Veshana lahem, et il s'est mis à leur enseigner. Bonsoir. Il s'est mis à leur enseigner. Et en fait, ce qu'on va voir plus loin, c'est que il y avait là 5, il y a d'autres versions, 7 grands maîtres, enfin 7 maîtres, qui sont devenus les grands maîtres, dont par exemple Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, enfin un des grands auteurs du Zohar. Et c'est les maîtres d'après lesquels nous avons tout ce que nous avons. Et on a appris effectivement dans la Gemara, dans Yevamot, Tana, Kulam metu mi Pesach al Atzeret. Ils sont tous morts entre Pesach et Shavuot. Donc voilà, c'est évident que la raison pour laquelle on a fixé un deuil, puisque c'est pratiquement un deuil, les gens on se rase pas et on se marie pas, donc. C'est un signe de deuil. C'est parce que il nous manque la Torah dont ces 24 000 élèves étaient porteurs. C'est même impensable ce qu'aurait été le Klal Israël si on avait eu ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Pour être à la Yeshiva chez Rabbi Akiva, il fallait déjà être extrêmement fort. Donc c'est déjà tous des très grands maîtres. Et donc en fait, nous portons le deuil. Non pas le deuil de ces personnages, mais le deuil de la Torah qu'on n'a pas eu parce qu'ils sont morts. Et du coup, même on peut se demander, mais est-ce que du fait qu'il manque cet enseignement, il nous manque cet enseignement, alors la question de la complétude, du fait que la Torah est complète se pose? Puisque nous n'avons pas ce qu'ils n'ont pas dévoilé, enfin, ce qu'ils ont éventuellement dévoilé, mais qu'ils ont emporté avec eux dans la tombe. Deuxième question subsidiaire, si vous voulez, c'est pourquoi est-ce que c'est justement entre Pessah et Shavuot qu'ils sont morts. C'est pas juste à ce moment-là qu'ils ne se donnaient pas de kavod, c'était un processus probablement bien plus long, étendu dans le temps. Pourquoi est-ce que il meurt tous dans un laps de temps relativement court, parce que bon, si ça s'étend sur une cinquantaine de jours, bon, sauf, c'est pas beaucoup. C'est 24 000 élèves sur une cinquantaine de jours, ça fait beaucoup de monde par jour. Pour essayer d'expliquer ça, on a l'habitude, enfin, pas l'habitude, on va reprendre ce qu'on a déjà vu plusieurs fois, que quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, il a trouvé Akadosh Baruch Hu qui était en train d'attacher des petites couronnes aux lettres de la Torah, et etc. Vous connaissez, il lui a demandé pourquoi tu fais ça, et pourquoi tu ne donnes pas directement la Torah sans cela, et il lui a dit, mais parce qu'il viendra un bonhomme qui va s'appeler Akiva Ben Yosef, et qui va, sur ses petites couronnes, enseigner, à partir de ces petites couronnes, il va enseigner des tilé-tilim, c'est-à-dire des montagnes de montagnes d'Alachot. Sur chacun des petits traits, à Kolkotz, il va... Alors, vous savez bien que Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, a dit à Kadosh Baruch Hu, tu as un bonhomme pareil, et pourquoi est-ce que c'est pas lui qui donne la Torah, enfin, pourquoi tu ne donnes pas la Torah à travers lui, plutôt qu'à travers moi, et Hachem lui a répondu, shtok, tais-toi. Tais-toi, car alta bemarchava lefanai. Littéralement, ça veut dire, ainsi est monté à ma pensée, c'est monté devant moi à ma pensée. Dans d'autres termes, c'est comme s'il disait, j'ai pensé comme ça. Bon, la suite, vous connaissez, il a demandé à voir le salaire, il a vu la torture, il a crié au scandale. Là aussi, Hachem lui a dit, shtok, tais-toi, car alta bemarchava lefanai. Donc, on voit, la Gemara nous dit, que Moshe Rabbeinu, lui, alors qu'il était convoqué en quelque sorte pour enseigner, pour recevoir la Torah, il a jugé qu'il vaudrait mieux donner la Torah par Rabbi Akiva que par lui. Ce n'était pas une clause de style. Si Moshe Rabbeinu l'a dit, c'est qu'il le pensait. Du Arizal, on rapporte que Rabbi Akiva est considéré comme un av, comme le père de la Torah chez Baal Peh, de la même manière que Moshe Rabbeinu est le père de la Torah chez Bichtav. Donc Moshe Rabbeinu, le père de la Torah chez Bichtav.
Et comme on dit dans Kipling, c'est Sherkan.
Oui, ça, je vous ai vu, hein.
Oh, je m'en doute.
Mais j'ai quand même appuyé sur le bouton.
À distance, on ne sait pas trop.
Voilà. Bien. Alors, du coup, donc chacun est dans son domaine, quoi. Un est dans le Torah chez Birtav et l'autre dans le Torah chez Baal Peh. Ils sont tous les deux les patriarches, les pères, mais comme presque le. La paternité au sens où paternité au sens qu'est-ce qui se passe là, comme on dit le père de, comme l'inventeur de. Et donc Moshe Rabbeinu, quand il a argumenté en disant qu'il aurait mieux valu donner la Torah à travers Rabbi Akiva, puisqu'en vérité, Rabbi Akiva est un père, il est aussi à ce niveau de ce degré de paternité quasiment par rapport à la Torah. Or, nous, on sait que Rabbi Akiva, enfin, l'autre texte dit que Rabbi Akiva, il était d'Oresh les couronnes qu'il y a sur les lettres. C'est-à-dire, il donnait du sens à ces petites couronnes, ces petits traits, trois traits qu'il y a sur certaines lettres du Chumash, du Sefer Torah, pardon. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, ça s'appelle, ces petits trucs-là s'appellent les tagim. là que on, de là on apprend taguer, etc. Oui. C'est bien connu. En fait, ça s'appelle des tagim. Ça veut dire que ces tagim portent en eux la notion de... Ils ont une dimension de couronne par rapport au, par rapport au, aux lettres. Par rapport aux lettres, il y a cette notion de couronne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces couronnes-là, elles sont porteuses, mais ça, bah, ça finit jamais, quoi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas passer son temps à... Qu'est-ce que vous avez là?
On a été coupé, j'ai...
Mais oui, on est coupé, quand on en met un, il y a l'autre qui se coupe. Pas trop quoi faire. Oui, oui, ça, maintenant c'est ça. Il y a un problème avec cet appel. Oui, il y a un problème avec cet appel. Là, tous les deux. Ok, tous les deux sont là?
Oui.
Bien. Arrêtez de nous embêter. Alors, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire ces couronnes? Ces couronnes, c'est, ça correspond à un niveau de Torah qui est au-dessus de, du niveau ordinaire de la Torah qui est lisible avec les lettres de la Torah. Et bien entendu, nous, à ce niveau-là, on n'a absolument aucune idée, dans notre monde, de ce à quoi ça correspond. Et donc, il faut comprendre pourquoi, justement, cette profondeur de la Torah, ou cette hauteur de la Torah, correspond justement à la Torah de Rabbi Akiva. Alors, ici, il propose de dire la chose suivante. Dans Pirkei Avot, dans le dernier chapitre de Pirkei Avot, on dit Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi enseigne que Bechol Yom Vayom Bat Kol Yotzet Me'as Chorev. Tous les jours, il y a un Bat Kol, c'est-à-dire une voix, qui sort du Chorev, c'est-à-dire du Sinaï. Ou Machrezet, et elle crie, elle annonce, et elle dit, Oy lahem la briot, me el bono shel Torah. Malheur aux créatures, donc malheur aux hommes, de l'abaissement de la Torah. Chez Kol mi sheino osek ba Torah nikra nizuf. Parce que tout celui qui s'occupe pas de Torah, c'est comme si en fait il méprisait, il faisait un geste de mépris à l'égard de la Torah. Or, on sait que quand on était au Sinaï, le moment du Sinaï, c'était le moment où la Torah a eu le plus de gloire. C'est, la Torah était dans toute sa gloire à ce moment-là. Et c'est pour ça que c'est le Sinaï qui réclame à cause de justement du mépris et du manque de gloire qu'on donne à la Torah, puisque c'est ce qu'on est en train de faire, ce que les gens font, comme dit Rabbi Shimon Levi, c'est le contraire de ce qu'on devrait faire à la Torah et de ce qui a été fait pour la Torah au Sinaï. Et donc c'est comme si le Sinaï était devenu allergique, puisqu'il a... C'est la montagne sur laquelle s'est dévoilé le kavod de la Torah. Alors cette montagne est devenue allergique à tout ce qui va dans l'autre sens. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le kavod de la Torah, qu'est-ce que c'est exactement ce kavod de la Torah? C'est la façon dont la Torah est dévoilée, la façon dont elle est appréhendée, saisie, comprise par ceux qui la reçoivent. Par les hommes, par les Bnei Israël qui doivent recevoir la Torah, le kavod, c'est la façon dont c'est reçu. À ce sujet-là, il y a un din qu'on appelle Moré Melech, c'est-à-dire, à l'égard d'un roi, on a une obligation de crainte du roi. C'est-à-dire, il y a une conduite, qui est une conduite, on pourrait dire respect, mais c'est plutôt crainte, peut-être crainte de la hauteur du roi, quoi. Quelque part, c'est une crainte révérentielle. C'est en fait parce que cette crainte, quand elle tombe sur les, disons, sur les sujets du roi, en retour, ça génère du kavod pour le roi. Donc, ça veut dire que le kavod est une expression de la crainte. C'est-à-dire, c'est une expression, c'est quelque chose qui ressort de la crainte. C'est marqué effectivement dans la Torah que le tachlit, le but du Mahamad Sinaï, du moment Sinaï, c'est marqué dans le pasouk, « Uba'avur tiye yirato al pnechem levilti techetau » pour qu'il y ait la crainte d'Hachem sur vous et que vous ne fautiez pas. On voit, c'était... Le Sinaï rayonnait en quelque sorte de la crainte, et grâce à cette crainte-là, on ne faute pas. Donc on voit bien qu'il s'agit ici d'un dévoilement de crainte qui entraîne le kavod du roi, par exemple. Sur Matan Torah, sur le don de la Torah, on a été d'Oresh, enfin la Gemara dans Brachot, on dit sur le mot Ve'atiferet, Tiferet, la splendeur, Zou Matan Torah. Le mot Tiferet, c'est une expression qui veut faire référence à ce moment qu'a été le don de la Torah. Donc on voit ici encore que le moment du don de la Torah, le Sinaï, c'est un dévoilement de la splendeur et du kavod qui est dû à Hachem. Et maintenant, on comprend ce que la Bat Kol dit, ce que cette voix dit. Elle vient du Sinaï et elle annonce, justement, qu'elle proteste contre le mépris affiché à l'égard de la Torah, parce que ce bizayon, ce mépris à l'égard de la Torah, est essentiellement en contradiction avec le moment Sinaï. Le moment Sinaï, c'était un moment de kavod. Et donc le contraire, c'est quelque chose qui est essentiellement contraire à ce moment Sinaï. Dès lors, en fonction de la façon dont la lumière de la Torah est reçue dans le monde d'en bas, par les hommes donc, eh bien, si cette lumière de la Torah est reçue convenablement, c'est une façon de dévoiler son kavod, le kavod de la Torah dans le monde. Sur le Sinaï, encore une fois, ce qui s'est dévoilé, c'est l'état de la Torah dans sa splendeur, c'est-à-dire le niveau le plus élevé de la Torah, dévoilable dans le monde. Et c'est pour ça que ce Mahamad Har Sinaï, ce moment Sinaï, avait pour but de dévoiler le kavod, parce que c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais en vérité, la Kabbalat HaTorah concrète, donc la réception de la Torah, concrètement, elle n'est pas terminée avec ce qui s'est passé au Sinaï. Parce qu'on voit bien que au Sinaï, le point culminant du Sinaï, c'était, ça aurait dû être en fait, la réception des premières tables de la loi. Or, ces tables, à cause du Chétah Egel, à cause de la faute du Vaudor, elles ont été brisées. Et donc, Chazal disent que, en fait, quelle honte pour la Kala d'avoir été adultère au milieu de sa choupa, quoi, quelque part. Ça veut donc dire que le dévoilement de la Torah dans le monde d'en bas, à ce moment-là, n'a pas été complet, en tout cas, puisqu'on n'a pas eu les luchot, les deuxièmes luchot, les premières luchot, pardon. Si nous avions mérité, en d'autres termes, donc si on n'avait pas fait le Vaudor, il n'y aurait eu ni galout, ni destruction, ni exil, etc. Et immédiatement, le monde aurait atteint sa perfection, son terme d'une certaine manière. Ce qui devait être, aurait été. Ça veut dire que ce qui se serait passé alors, c'est que, ce qui correspond donc aux premières tables de la loi, c'est que la lumière d'en haut, elle aurait saisi en quelque sorte les créatures d'en bas, et elle aurait été gravée dans le cœur de chacun comme les tables avaient été gravées par l'écriture. C'est qu'en vérité, ce qui se serait passé, c'est que quasiment les tables, c'est nous qui serions devenus la table, sur les tables. Le cœur de chacun aurait été la table. Maintenant, où est passée cette lumière qui n'a pas été dévoilée à cause de cette lumière dont les premières tables étaient porteuses et qui ne s'est pas dévoilée puisque les tables ont été brisées? Où est-ce qu'elle a passé dans la création, dans le monde? Bien, on sait qu'elle se dévoile, cette lumière, par le biais de la Torah Shebaal Peh, par le biais de la Torah orale. Et on sait que justement cette lumière, elle est la profondeur de la Torah qui s'actualise, donc qui se concrétise effectivement parce qu'elle vient de ce lieu caché, elle vient de, comme la Torah orale, elle vient du caché, il faut aller la chercher, quoi. Les paroles de Torah qui étaient inscrites sur les tables, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, puisque ça veut dire que dans le monde matériel, support matériel donc, il y a une inscription possible de la Torah. C'est-à-dire que le monde matériel va devenir un avec la Torah elle-même. Ce monde matériel, c'est-à-dire ce support matériel, va devenir un avec la Torah elle-même. Or, ceci, c'est justement le niveau de la Torah Shebaal Peh. Le niveau de la Torah Shebaal Peh, la Torah orale, c'est que des hommes avec un corps, des hommes avec un corps matériel, deviennent capables de produire par eux-mêmes, à partir d'eux-mêmes, de la Torah. C'est ça la Torah orale. En d'autres termes, ça veut dire que la Torah est gravée dans leur cœur au point qu'ils deviennent eux-mêmes un morceau de Torah. Alors, on a vu quelquefois déjà que, étant donné que la Torah a été acceptée par la suite dans des générations qui étaient loin dans le temps, éloignées du dévoilement de la lumière qu'il y a eu au Sinaï, aujourd'hui on est loin du Sinaï, eh bien, il y a donc un dévoilement en profondeur, de la profondeur de la Torah, qui n'était pas possible au temps de Moshe Rabbeinu. Et c'est ce que veut dire, quand on dit qu'il est un Mekabel de Torah, que Rabbi Akiva est un Mekabel Torah, c'est quelqu'un qui reçoit complètement la Torah, c'est que lui, il a dévoilé, effectivement, des profondeurs de la Torah, de l'obscurité, la plus grande, parce qu'il était justement dans ces générations, où la génération de la destruction du Beth Amikdash, du Galout, etc., du commencement de la domination romaine. Alors, il faut peut-être que je précise que quand on dit que ce n'était pas possible au temps de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas possible au temps de Moshe Rabbeinu? La Torah, elle descend aussi profond que possible. L'idéal, c'est de faire en sorte que la Torah illumine la matière la plus matérielle, si on veut. On va la faire descendre. Et donc, l'idée qui était développée ici, c'est que plus le monde est éloigné du don de la Torah, en d'autres termes, plus le temps a passé depuis le Sinaï, plus le monde s'est épaissi, plus il est devenu grossier en quelque sorte. Moins il est en contact avec cette lumière qui s'est dévoilée au Sinaï, avec le temps, ça c'est devenu plus grossier au sens d'une matière plus grossière. Donc si elle est plus grossière, la Torah va pouvoir se développer et se dévoiler dans cette matière plus grossière aussi. Si on arrive à l'époque où la matière est tellement grossière, malgré tout, à développer de la Torah. Donc la Torah, elle aura illuminé des degrés matériels qu'elle ne pouvait pas illuminer au temps de Moshe Rabbeinu, parce que le monde ne s'y prêtait pas, le monde n'était pas dans cet état-là. Imaginez si je voulais donner des chiffres, peut-être on comprend mieux. C'est comme si on disait que, si vous voulez, que des choses qui étaient dans une matière très noble, c'est-à-dire une matière au sens de quelque chose de très léger, avec une très faible densité, si vous voulez, très en plume. Ouais. Et maintenant, avec le temps, avec la poussière, etc., c'est devenu beaucoup plus lourd, quitte à au point d'être éventuellement maintenant en pierre. Alors, la Torah, avant, elle allait jusqu'au niveau plume, jusqu'à la densité correspondant à la plume. Et maintenant, puisque les maîtres qui vivaient à cette époque-là ont développé une Torah orale qui était gravée dans leur corps, en fait, mais leur corps à eux était aussi moins grossier, si on peut parler comme ça, que le nôtre. Et donc, les maîtres de notre génération, ou la génération précédente, peu importe, eux vont, avec leur corps qui est beaucoup plus grossier, puisqu'il est loin de la du dévoilement de la Torah, donc c'est plus grossier, eh bien, ils vont produire de la Torah dans ces circonstances-là, c'est-à-dire dans cette obscurité résultant de l'éloignement de la lumière, on est tellement loin de la lumière qu'on est vraiment dans l'obscurité, et produire de la Torah, c'est produire de la lumière, bien qu'on soit dans l'obscurité. Donc, et dans une obscurité qui est beaucoup plus profonde que l'obscurité de la génération de Moshe Rabbeinu, de la génération juste après, etc. Et donc Rabbi Akiva lui-même, il était déjà dans une obscurité, dans un monde avec une obscurité beaucoup plus grande que celle du monde de Moshe Rabbeinu. Donc sa Torah, c'est une Torah qui a une puissance d'éclairage, si vous voulez, qui est plus grande que la puissance d'éclairage de celle de Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de plus, il ne pouvait pas obtenir plus de rayonnement de la Torah, puisque le rayonnement dépend du milieu dans lequel on est.
Est-ce que ça apporte plus de mérite, si je puis dire, je ne sais pas si c'est plus de
convient. Oui, peut-être en plus.
Même au maître concerné.
Oui, c'est possible que ça donne plus de mérite, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que il y a de la Torah qui se dévoile à un niveau plus élevé. On raconte que un jour, Rav Kamenetsky, qui était un des grands rabbanim américains qui sont de notre contemporain, quoi. Décédé il y a une dizaine d'années, je ne sais pas, une vingtaine d'années peut-être maintenant, il était un jour dans un avion entre les États-Unis et Israël, et il était à côté du directeur de la Histadrut. Ils étaient tous les deux en première classe, et le Rav Kamenetsky, il avait des petits-enfants qui étaient en seconde classe, et ces petits-enfants, ils venaient sans arrêt demander si ça va, est-ce qu'on peut t'aider, etc. Et le directeur de la Histadrut, il a dit, moi mes petits-enfants, s'ils étaient dans l'avion, ils ne s'occuperaient pas de moi, ils ne viendraient pas me demander comment ça va, etc. Alors Rabbi Yaakov Kamenetsky lui a dit, c'est normal. Nous on pense qu'on est descendant de Adam Arishon, on vient d'Adam. Et Adam, il a été fabriqué par Hachem directement. Donc pour mes petits-enfants, moi je suis plus proche de Adam qu'eux. Donc il s'occupe de moi, il me donne du kavod parce que je suis plus proche. Mais toi, tu penses que tu descends du singe. Donc eux, ils sont plus loin du singe. Ils n'ont pas tellement de raison de venir s'occuper de toi. C'est le syndicat israélien. Bien sûr, il voyait en première. Non, mais c'est pas une critique, mais et donc ce que nous avons dit, que Rabbi Akiva, il était d'Oresh Kitreotiot, c'est-à-dire que Rabbi Akiva, il donnait du sens aux couronnes des lettres. Parce que la couronne, c'est en quelque sorte l'importance, la couronne de la lettre, c'est la partie cachée de la lettre de la Torah, d'accord, mais c'est le niveau le plus élevé qui soit, c'est la couronne. Alors nous, on comprend que c'est ce que nous on appelle Torah Tassod, c'est-à-dire en fait c'est ce qu'on appelle la Kabbalah, qui est cachée, et qui est cachée parce que on est dans l'obscurité, parce que la nature dans laquelle nous vivons est une nature, le monde cache Hachem d'une certaine façon. Et du coup, dans ce monde de la nature, etc., dans lequel nous sommes, le monde dans Olam Hazeh, nous n'avons aucun accès à cet enseignement-là de Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, hein, il a réussi, pour pouvoir dévoiler ça, il l'a fait grâce à la démarche qui était la sienne, qui était de... C'était le Messie Rotnefesh, il s'est entièrement donné à cet enseignement, entièrement, il s'est complètement effacé par rapport à la Torah, il n'existait que pour dévoiler cette Torah. Et du coup, tout ce qu'il y avait, tout ce qui est derrière la nature, si vous voulez, et qui fait partie, la nature c'est aussi un ensemble de règles qu'Hachem a donné au monde. Et donc, reconnaître Hachem derrière la nature, c'était tout le travail. Si vous voulez, par exemple, c'est le travail qu'il a fallu commencer à faire quand on est entré en Eretz Israël. Quand on était dans le désert et que tout ce qu'on avait, on le recevait de façon miraculeuse, il n'y avait pas de grande difficulté à reconnaître que ça venait d'Hachem. Tu voyais bien que la manne, le puits de Myriam, les anané kavod, les nuées de gloire, etc., tu vois bien que ça ne fait pas partie de la nature. Mais quand tu es dans un monde dans lequel, pour avoir à manger, tu dois labourer, tu dois semer, tu dois ensuite récolter, etc., tu as tendance à te dire, bon, ben c'est les règles, c'est la nature. Voir que les choses, c'est que là, néanmoins, c'est Hachem qui gouverne tout ça, c'est évidemment un travail. C'est un travail plus difficile que le travail qu'il y avait dans le désert. Mais reconnaître que là aussi, en fait, tout ça c'est de la Torah, parce que la Torah est le plan du monde, et que par conséquent, la nature comme un règle de fonctionnement du monde, elle est aussi inscrite dans la Torah. C'est ça la couronne de la Torah, c'est le niveau le plus élevé qui soit. Dans le monde dans lequel nous sommes, on ne peut pas dévoiler plus, puisque on est dans le monde matériel. Dans la Mishnah, on enseigne, Mishnah dans Sota, on dit, « Mishemet Rabbi Akiva batel kvoda Torah. » Lorsque Rabbi Akiva est mort, il n'y a plus existé de kavod de la Torah. On ne savait plus ce qu'était la notion de kavod de la Torah. Et Rashi explique pourquoi. Parce que lui, Rabbi Akiva, aya noten libo lidrosh kol kotz vekotz shel kol ot vekol shken tevot yeterot otiyot yeterot bat ubat ani doresh. Et c'est ça le kavod de la Torah. Et c'est en fait un kavod extrêmement élevé parce que rien n'est sans... Rien n'existe qui ne puisse être rapporté à la Torah. J'explique un peu plus, enfin je répète. Il y a des gens qui étudient la Torah et puis ils étudient et puis bon, ils vont interpréter la Torah. Mais si leur interprétation ne colle pas exactement avec ce qui est écrit à la lettre près, ça ne les dérange pas, parce que bon, grossièrement ou globalement, c'est ça que ça veut dire. Étudier de cette manière-là, c'est étudier sans donner de kavod à la Torah. Le kavod de la Torah, c'est de dire, je vais travailler jusqu'à ce que j'ai donné du sens à toutes les lettres de tous les mots de la Torah. Et Rabbi Akiva, il allait encore plus loin, jusqu'à ce que j'ai donné du sens à toutes les petites couronnes des lettres de la Torah. Donc, en quelque sorte, il a donné le sens maximal. C'est pour ça qu'on dit, quand lui n'était plus là, le kavod de la Torah n'existait plus. Puisque personne ne pouvait faire ce travail, ne savait faire ce travail que Rabbi Akiva savait faire. Donc lui, il montrait justement qu'il n'y a aucun détail dans le monde qui ne soit pas de la Torah. C'est ça qu'on veut dire quand on dit « il était d'oresh tous les tagim », même un petit trait, qu'est-ce que tu vas donner comme sens à un trait? Autant que c'est le même trait sur plusieurs lettres, et c'est le même trait si cette lettre elle est dans ce mot-ci ou dans un autre mot, ce sont les mêmes traits, c'est jamais qu'un trait. le travail qu'on fait dans la Sfirat HaOmer, dans ce conte du Homer, c'est le dévoilement d'une réalité de la Torah dans la nature, dans ce monde-ci. C'est montrer que simplement le défilement des jours, on va leur donner du sens aussi. On va les compter. Alors compter, si on les comptait tout simplement, n'est-ce pas, quand vous comptez, c'est que vous avez choisi une origine, et puis on peut aussi compter par rapport à un but. Alors nous, on compte à partir du Corban du Homer. On a apporté le deuxième jour de Pessah un Corban, en orge. C'est intéressant d'ailleurs, j'ai ouvert le journal, c'est marqué que le cours de l'orge flambe en ce moment. C'est sûrement à cause du Homer. Alors, parce que le Corban Homer, c'est de l'orge. Et donc, c'est quand on compte, les choses, enfin, la première chose, c'est que on choisit une origine. Quand tu comptes, ben, ça n'a pas de sens, tu ne peux pas commencer à compter s'il n'y a pas une origine. Et donc, ça veut dire que tu valorises une origine. C'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles le Khatam Sofer, il disait que quand on écrit une date, il faut écrire le nom du mois. Il ne faut pas écrire le 5 pour le mois de mai, parce que ça veut dire que tu valorises le 1 qui est le mois de janvier. Et en fait, nous, on a même un autre problème, c'est comment est-ce qu'on compte le temps, les années aussi. Parce que l'année 1, même si ce n'est pas vrai, c'est censé avoir pris cette origine-là. Et donc, c'est comme si on valorisait ce moment-là, puisqu'on compte notre temps d'après ça. Bon, les années, ça dépend, des fois on ne peut pas faire autrement, mais peut-être puisque les années n'ont pas de nom, mais puisque les mois ont un nom, alors si tu mets le nom du mois, bon, ça ne marche pas sur tout ce qui est informatisé, ça ne marche pas, parce qu'il y a seulement la place pour mettre des chiffres, c'est tout. Tu peux pas écrire les noms, tu peux pas écrire mai, il n'y a pas la place. Tu es obligé de mettre 0,5, quoi. Sinon ça ne marche pas. On est obligé. Quand on a le choix. Hein.
Si Rabbi Akiva, il enfonce profondément dans la matière la Torah, si j'ai bien compris.
Il arrive à la faire exister, donc rayonner. Y compris dans les endroits les plus sombres, quoi, si tu veux.
Mais qui, maintenant que la Terre continue à
vieillir, hein, à s'épaissir.
À s'épaissir, qui fait ce travail
Personne, justement. C'est pour ça que Batel Kvod HaTorah. Le Kavod n'existe plus. Parce qu'on n'est plus capable de faire ce travail aussi loin que Rabbi Akiva. C'était Rabbi Akiva qui était capable de faire ce travail.
Mais est-ce qu'on a une chance aujourd'hui, enfin, qu'on peut imaginer que elle sera de nouveau transmissible, autrement dit
peut-être qu'elle est, transmissible, peut-être c'est là dans en Kabbalah, peut-être en,
ouais.
Peut-être dans le Torah Tassod, c'est peut-être possible,
parce qu'en fait à travers le fait de la mort d'Akiva et de ses fameux 24 000 élèves, il semblerait qu'on a perdu quelque chose de majeur.
Oui, bien sûr, mais si vous voulez, c'est pas étonnant qu'on ait perdu. Je veux dire, nous aussi on a perdu énormément. Pendant la guerre, on a perdu des générations entières d'élèves. Enfin, une génération qui manque. Il a été tué, les yeshivot de l'Est, c'est celles qui se sont pas, quelques-unes se sont sauvées. Mais il y a combien de milliers, de dizaines, de centaines de milliers d'élèves, ou de gens qui étaient capables, ben, tout ça on l'a perdu, on l'a pas. Et ça se sent d'ailleurs.
Sur un Rav il expliquait que s'il y en a un qui fout, il y a un grand rave qui disait, je comprends pas, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un problème, et un élève comme ça, il l'a trouvé tout de suite. Non, parce que toi, tu l'as trouvé, et ça, tu l'as révélé à tout le monde, en fait, et l'autre, il a juste profité du travail sans le savoir. Donc c'est pas...
Non, mais c'est sûr que ce que Rabbi Akiva a dévoilé, et qu'il nous a dévoilé, on l'a. même si en fait nous n'aurions pas été capables de faire le travail qu'il a fait. Mais c'est ça que c'est pour ça qu'on a cette bibliothèque. Donc on disait cette Sfirat HaOmer, c'est donc le dévoilement que de ce que dans la nature, simplement la suite des jours, le déroulement des jours peut devenir Torah, puisqu'on va en faire de la Torah. En intégrant la Sfirat HaOmer, on en a fait des supports, des marches qui mènent au don de la Torah. Donc au lieu d'être des jours, c'est pas n'importe quel jour, je compte des jours dont je sais qu'ils me mènent au dévoilement de la Torah, qui mène à Shavuot, où je vais recevoir la Torah. Et c'est ça la Torah chez Balpé, le contenu de la Torah chez Balpé, la Torah orale, c'est ça. Donner du sens à tout. Effectivement, par exemple, mon maître, Moshe Zichronevracha, un jour on était dans la souka, il y avait une mouche qui nous dérangeait. Il a fait un chiour sur la mouche, sur la trajectoire de la mouche. Ou si vous préférez, un jour, à Simchat Torah, on dansait. Et puis on chantait. Et puis là, il était extrêmement fatigué, mais à la fin, on lui a demandé de... On a fait une fête, Simchat Torah, on lui a demandé de parler. Alors, il a fait un chiour dans lequel il a expliqué toutes les paroles des chants qu'on a chantés et il a lié les chants les uns aux autres. Il a expliqué comment on passait dans la Torah de l'un à l'autre. Donc ça, premièrement, ça disait à quoi il pensait quand il dansait. C'est pas qu'il allait danser simplement puis chanter. Et puis, donc, il en a fait quelque chose. Et c'était... sans arrêt en train de travailler, quoi. Sans arrêt, tout était objet d'étude.
Justement, peut-être ce que vous dites me fait penser à ça, parce que quand on parle de kavod, de Torah, ce sont des mots.
Oui, c'est sûr.
On personnalise, on illustre ça, comme on met en scène quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de derrière les mots de kavod? Et justement, plusieurs reprises, vous avez ramené que pour qu'il y ait un matin de Torah, il faut qu'il y ait un récepteur. Il y a donc un émetteur, et il y a un récepteur. Le problème le récepteur n'était vraisemblablement, le récipient que nous sommes n'était vraisemblablement pas prêt pour recevoir le contenu, le sens de cette Torah. D'ailleurs, quand vous parliez de Kavod et de crainte, les deux premières paroles, on les a reçues, mais on les a reçues tellement fort que on ne les a pas supportées.
Enfin, c'était la façon dont, ce qu'ils n'ont pas supporté, c'est que ce qui s'est passé, c'est quand ils ont entendu la première parole, j'ai expliqué plusieurs fois, ils en sont morts. Ils ont été projetés en arrière, ils sont morts. Mais ensuite, ils ont ressuscité avec cette parole-là fichée dans le cœur. Ça veut dire, ça va être totalement intégré, cette parole. Deuxième parole, même scénario. Ça veut dire que la Torah, elle est là pour nous bouleverser, elle est censée nous changer. Quand j'entends une parole, là, cette parole-là, elle a été dite par Hachem directement, donc cette idée, cette image qu'on prend pour dire qu'ils sont morts, ressuscités, etc., ça veut dire que toute Torah qui n'est pas bouleversante, en fait, n'est pas de la vraie Torah. Si, si.
Mais aussi, on ne l'a pas supporté.
C'est-à-dire non, alors, ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est une erreur. Oui, ils n'ont pas... Non, c'est difficile de dire que ce n'était pas adéquat. C'est que eux n'ont pas voulu... Si vous voulez, des fois, c'est pas qu'on ne peut pas. Des fois, on n'a pas envie. On n'avait pas envie d'être dérangé à ce point-là.
Mais c'est aussi une capacité de réception. Parce que finalement, on le sait, si je peux dire un peu par un raisonnement, par l'absurde, enfin... On sait que si on avait été capable de le recevoir, ça aurait été pour nous, ça aurait été extraordinaire.
Oui. Mais il y a toujours le problème de savoir.
J'ai pas envie, ça veut dire que je ne suis pas prêt.
Vous voyez, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que Hachem lui-même avait dit il faut 2 jours pour se préparer. Mon cher Rabbeinu a ajouté 1 jour. Et avec ces 3 jours de préparation, on n'était toujours pas prêt, d'après ce que vous dites. C'est difficile d'imaginer qu'Hachem a dit « Ayom ou Machar, aujourd'hui et demain vous vous préparez, demain et après-demain je donne la Torah. » Moshe Rabbeinu ajoute 1 jour pour des raisons dont on a déjà parlé. Et malgré tout, on n'est pas prêt. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire, c'est la même chose que quand quelqu'un comprend quelque chose et puis il ne veut pas faire l'effort. Combien de personnes savent pertinemment qu'ils ne doivent pas conduire quand ils ont bu et conduisent quand même? Combien de personnes savent qu'elles ne devraient pas fumer ou etc. Ils fument quand même. D'où ça vient cette... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu sais pertinemment, c'est pas du tout que je sais pas. J'y crois même. Je crois vraiment à ça. Comment se fait-il que je le fasse pas? Et c'est vrai, on n'arrête pas de faire ça, nous. Bon, je connais les mitzvot. Ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Mais ce que je connais, est-ce que je fais tout ce que je connais? Non. Des fois, je fais comme si je n'avais pas vu qu'il y avait peut-être autre chose à faire. On est capable de ça.
Mais justement, c'est ce que ça...
Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas prêt.
Ça ramène ce que vous disiez préalablement. On n'est pas bouleversé.
On n'a pas envie d'être bouleversé. Non, ça, j'ai pas envie d'être bouleversé. Il fallait accepter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit on veut pas mourir. Mais qui te parle de mourir? Tu as ressuscité. D'accord? Qu'est-ce qu'ils disent, quoi? Si ça se trouve, on ne ressuscitera pas. Qu'est-ce que c'est de bêtise? C'est la Torah, c'est une Torah de vie qu'Hachem te donne. Tu peux penser un seul instant que c'est pour te faire mourir. Ben, si c'est pour te faire mourir, ça veut dire que c'est bien pour toi. Et qu'est-ce que c'est la mort pour celui qui meurt? Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais la mort est dérangeante pour ceux qui restent. Celui qui meurt, nous on pense qu'il va chez Hachem. Bon, alors c'est vrai qu'il risque d'être jugé et tout. Mais bon, on compte, il y a du rachamim, etc.
Justement, c'est ce que vous avez ramené au jour précédent. C'est que ce 3e jour que Moshe Rabbeinu a ajouté, c'est essentiel. Parce que c'était de faire de nous des receveurs, mais également des émetteurs. C'est-à-dire, nous étions capables... Moshe Rabbeinu, bien sûr, a compris qu'il devait produire.
Oui.
Et c'est ce que fait...
C'est toute la Torah chez Balpé.
C'est ce que fait la Torah chez Balpé.
Et donc, c'est... Mais ils n'ont pas voulu continuer. D'abord, Imanu.
À travers le temps, je veux dire aujourd'hui, à travers les générations, c'est ce travail qui se fait. Ce travail qui n'a pas été fait, si on peut dire, de toute façon, est comme ça, mais, je le dis,
oui.
Au départ, qui se fait à travers les générations.
Est-ce que l'obscurité
peut avoir quelque chose d'irréversible, parce qu'on voit que Pessah Hachem nous a fait sortir parce que justement il est une forme de. Si on était resté, on serait. On n'aurait jamais pu sortir.
Oui.
Donc d'une certaine façon, je veux dire, il nous a fait sortir plus tôt que prévu à cause de ça. Et donc on peut très bien imaginer que bien qu'il y ait un Torah Sheba Al Peh, on ne soit plus capable de lire la Torah Sheba Al Peh.
Bien
qu'on ait reçu la Torah Sheba Al Peh, mais imaginez qu'arrive un moment dans une génération, on n'arrive plus à faire le travail pour faire sortir le sens. Même ne serait-ce que le sens tel que ce qu'on nous transmet au fur et à mesure.
Oui. On a une promesse que la Torah ne sera pas oubliée. Sinon, on aurait pu imaginer comme tu dis. C'est... Donc, pour revenir à ce qu'on disait, donc, ça veut dire le monde d'en bas est lui aussi capable de Torah, au sens de. Comme on l'a dit, ça c'est le contenu de la Torah chez Balpé. Donc quand la Torah vient illuminer les lieux qui ne sont pas illuminés jusqu'à présent par la lumière divine, eh bien, de la même manière, elle est capable d'illuminer plus en profondeur la Torah. Et là, on comprend ici la profondeur du travail de Rabbi Akiva. De la même manière que Moshe Rabbeinu était lui, en quelque sorte, au niveau de ce Mahamad Har Sinai, il était au niveau de ce moment Sinai, et tout Israël a dû, avec la préparation a dû y arriver à ce niveau-là, au point qu'ils sont devenus récepteurs de la Torah comme Moshe Rabbeinu. Quand ils ont entendu dans les deux premières paroles, ils ont entendu comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a entendu, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Ils disent, maintenant tu peux nous parler, nous on sait que tu reçois vraiment, que tu n'es pas en train d'inventer quelque chose, on a expérimenté la même chose. C'est d'ailleurs le piège de Kohar. Kohar, par la suite, il va fabriquer sa théorie, développer la théorie de Kolaïda Kulam Kedoshim. Le peuple est entièrement saint, parce que tout le peuple a vécu le Mahamad Har Sinai, et tout le peuple a entendu et il a été transformé par la parole divine. Donc on est, bon, toi, tu es un peu plus, mais qualitativement, on est même niveau que toi. Et il va dire à Moshe, mais pourquoi tu nous domines, pourquoi tu décides? Nous sommes au même niveau que toi. Parce que c'est vrai que, enfin, extérieurement, on peut penser en tout cas que d'entendre deux paroles, c'est la même chose que d'en entendre 10. En vérité, c'est pas comme ça. Parce que les 10 forment un tout. Parce que la question qui se pose, c'est puisqu'ils avaient entendu et qu'ils avaient été transformés par les paroles qui interdisent l'idolâtrie, comment se fait-il qu'ils ont fait le veau d'or? Mais c'est parce que c'était fiché en eux, mais ça aurait été définitivement fiché s'ils avaient entendu les 10. Et quand ils n'ont pas entendu les 10 de la bouche d'Hachem, alors c'était encore possible de fauter. Surtout que ça ne se donnait pas pour de l'idolâtrie initialement. Personne au départ n'a pris le veau d'or pour une idole. C'était ce qui allait leur permettre, ce qui devait remplacer Moshe Rabbeinu. Et quand ils ont dit on a besoin de remplacer Moshe, ils ont clairement dit Haish Moshe, l'homme Moshe, nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui. D'accord. Alors après, évidemment, on a dit Elohecha Israël, c'est ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. Bon, ça c'est la déviation d'idolâtre. Idolâtre. Donc, les élèves de Rabbi Akiva, du coup, maintenant, de la même manière que les Bnei Israël ont été obligés de s'élever au niveau de Moshe, Rabbeinu, les élèves de Rabbi Akiva auraient dû s'élever et accéder au niveau de Rabbi Akiva. Comment ? Par cette procédure du type Omer, c'est-à-dire ils auraient dû le premier processus de Homer, il menait au premier don, enfin au don des premiers Alouchot. Ensuite, au temps de Rabbi Akiva, comme chez nous, le processus du Homer ne mène pas au don des premiers Alouchot, celle-là on les a perdus. D'accord ? Elle mène au don de la Torah qui, par la suite, va être redonnée, cette Torah. C'est vrai qu'on l'obtiendra à Kippour seulement, mais on a laissé ça accroché à Shavuot parce que il y a quelque chose de Shavuot qu'on a encore. Rabbi Akiva, puisqu'il est comme Moshe Rabbeinu, et donc il était au niveau Sinaï, si on veut, mais du côté Torah Shebalpé. Moshe Rabbeinu était au Sinaï, il était le Sinaï, côté Torah Shebirtav, Torah Oral, Torah écrite. Les Talmidim, ils auraient dû être la Sphira, la période de la Sphira. C'est-à-dire, en fait, ils allaient en direction de Matan Torah. Et on a expliqué plus haut que le moment de Matan Torah, le moment du Sinaï, c'est le moment du dévoilement du Kavod de la Torah. Donc le travail, c'était un travail à faire au niveau du kavod. Puisqu'il faut se préparer pour donner du kavod à la Torah. Et maintenant, étant donné que la Torah de Rabbi Akiva, c'est le dévoilement du kavod de la Torah, comme on l'a dit. Alors, l'onagou kavod zebeze, quand les élèves ne se sont pas donné du kavod les uns aux autres, alors, en fait, d'une certaine manière, ils n'ont pas suivi l'enseignement de Rabbi Akiva. Ils étaient à la yeshiva chez Rabbi Akiva, mais ils ne prennent pas Rabbi Akiva pour ce qu'il est. Il n'est pas leur maître, comme il devrait l'être, comme Moshe Rabbeinu a été le maître des Bnei Israël. Donc les élèves ne travaillent pas sur le kavod de la Torah. Ça veut dire que c'est pas qu'ils ont manqué de Heret, c'est-à-dire qu'ils connaissaient pas le savoir, c'est pas par manque de savoir-vivre qu'ils se sont pas donné de kavod, c'est pas qu'ils se poussaient du coude et l'un poussait l'autre et qu'ils donnaient pas de kavod, ils se marchaient sur les pieds, etc. C'est pas non plus qu'ils méprisaient l'autre en tant que tel. Ils n'ont pas compris que chacun d'entre eux est à un niveau où il pourrait être comme Rabbi Akiva. Chacun des élèves peut être comme Rabbi Akiva, de la même manière que les Bnei Israël ont été comme Moshe Rabbeinu, de la même manière que les Bnei Israël ont entendu la parole d'Hachem comme Moshe Rabbeinu pendant les deux premières paroles, de la même manière, donc ils étaient comme Moshe Rabbeinu. De la même manière, les élèves de Rabbi Akiva auraient pu être comme Rabbi Akiva.
Pourquoi il y a eu un traitement différent pour eux ?
Pour qui ?
Pour les Talmidim de Rabbi Akiva. Parce que de la même manière que Akhenaton a dit à Moshe, je vais les détruire, quand ils sont foutés.
Mm-hmm. Mais là, il n'y avait personne pour les rattraper. Il n'y avait pas de Moshe. Rabbi Akiva, il n'est pas Moshe. Ils sont morts.
Oui.
Oui, non, mais ils sont morts parce que Rabbi Akiva, c'est pas Moshe Rabbeinu. Parce que, on peut aussi dire, à leur niveau, c'est impensable. Les Bnei Israël qui sortent d'Égypte, c'est des anciens esclaves quand même. D'accord. Alors, toute la sortie d'Égypte, c'est ce qu'on appelle l'Itaruta de Leila, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont pris en charge par en haut. C'est-à-dire que c'est comme si les Bnei Israël étaient pris comme ça. Mais au temps de Rabbi Akiva, normalement, ça doit être comme ça. On doit se prendre en main. Qui ?
Les Israël, ils avaient reçu la Torah, ils avaient reçu les deux premières paroles, et ça ne les a pas empêchés de.
Oui, bien sûr. Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui. Parce que, en fait, ça voulait. Effectivement, ils méritaient d'être détruits. D'ailleurs, ils ont été détruits, n'est-ce pas ? Cette génération a été détruite. Il a fallu l'histoire de l'épisode des explorateurs, mais toute cette génération a été détruite. À l'exception de Caleb et de Joshua, personne n'est entré en Eretz Israël. Ils sont tous morts. Seulement, ils avaient obtenu un sursis. Ce que Moshe Rabbeinu a obtenu, c'est seulement un sursis. Ils étaient en sursis, et le sursis est tombé quand ils ont fauté au niveau des explorateurs. Ils n'ont pas compris véritablement que, en quelque sorte, dans leur Beit HaMidrash, parce qu'ils sont les élèves de Rabbi Akiva, alors ils ont l'obligation de dévoiler dans le monde les couronnes des lettres, en fait. C'est-à-dire la lumière la plus intérieure du Sinaï. Et c'est pour ça qu'ils ont disparu entre Pessach et Atzeret, pendant la période de Sfirat HaOmer. Parce que c'est la période de préparation à ce moment-là, quand tu ne travailles pas à ce niveau-là, bon ben alors tu es complètement disqualifié. Les Bnei Israël, au temps de Moshe Rabbeinu, durant la Sphira, ils ont travaillé. Ils ont fait ce qu'il fallait. C'est après ils ont fauté. Mais eux, ils n'ont pas travaillé dans la Sphira. Ils ne se sont pas préparés pour recevoir la Torah. Et c'est pour ça que lorsqu'on a fixé les jours de la Sphira comme jour de deuil à cause de la disparition des élèves de Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Akiva devait dévoiler dans le monde la Messirut Nefesh pour la Torah, c'est-à-dire il devait assurer la transmission de la Torah chez Baal Peh, qui est donc le kavod de la Torah. Et puisque ça n'a pas été possible à cause d'eux, donc il nous manque effectivement ce niveau de Torah. Alors c'est pour ça qu'on a dit, la bat kol, Rabbi Yoshua ben Levi a dit, cette bat kol, elle sort, elle annonce, Oy lahem la briot me elbona shel Torah. Malheur aux créatures, c'est-à-dire aux hommes, puisque tout celui qui s'occupe pas de Torah, il est méprisable en fait. Pourquoi ? Parce que, et on devrait lui, en quelque sorte, on devrait lui passer lui donner une paire de claques, quoi. Parce que il a touché au kavod de la Torah. Et donc, ce statut de méprisable, c'est les mêmes dinim que les dinim d'Avelout. Quand quelqu'un est mis, quand il est méprisable, c'est une façon de le mettre, pas en cherem, mais enfin quelque chose de ce genre-là, de mettre à l'écart. Ça a les mêmes lois que l'Avelout, que le deuil. Donc, ce n'est pas à cause des Talmidim eux-mêmes. c'est pas à cause de la veloute des Talmidim, parce que les Talmidim de Rabbi Akiva sont morts. C'est vrai que quand quelqu'un, on doit être endeuillé quand quelqu'un de bien décède, ça doit nous toucher. Mais là, c'est pas à ce titre-là. C'est au titre que la Torah, à cause d'eux, ils se sont pas occupés de la Torah comme il le fallait, et donc on a perdu, nous, cette Torah, ce niveau de Torah. C'est là-dessus que on se désole, en quelque sorte. C'est là-dessus qu'on est en deuil. C'est le deuil de la période de deuil de la Sphira, il est sur ce point-là, sur le fait que la Torah, à cause d'eux, elle n'est pas dans le niveau où elle a été donnée. Elle devrait être comme elle a été donnée, puisque il y avait la possibilité pour eux de dévoiler le kavod de la Torah, c'est-à-dire la Torah chez Baal Peh, qu'ils auraient été capables de dévoiler s'ils avaient travaillé ensemble. S'ils avaient travaillé dans cette optique-là, ils avaient donné du kavod à l'autre, ils auraient réussi à sortir à produire la Torah chez Baal Peh dans toute sa gloire, en quelque sorte.
Ce que j'ai mal à comprendre, c'est est-ce que c'est une perte ou c'est un manque à gagner, dans la mesure où...
Non, c'est une perte.
Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, il est postérieur, c'est...
Oui, il fait partie des nouveaux élèves, oui.
Et ces nouveaux élèves n'ont pas été capables de...
Ils étaient 5, ils ne faisaient pas le travail des 24 000.
Ben, mais 24 000, ils sont, vous l'avez dit, ils étaient répartis sur tout le territoire.
Mais c'est pas l'important, eux aussi, ils sont allés partout, après.
C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient chacun une facette de Rabbi Akiva, et ils devaient arriver à entendre la Torah de l'autre.
La raison pour laquelle on fait la Hiloula de Rabbi Shimon à Nagba Omer, en vérité, on aurait dû faire la Hiloula de Rabbi Akiva. Parce que le maître de la Torah chez Baal Peh, c'est Rabbi Akiva. Et donc la fête, il faudrait la faire. Puisque c'est une espèce de noce mystique entre le maître et la Torah, quoi. Et on aurait dû faire ça avec Rabbi Akiva. Mais on a une règle que quand quelqu'un est mort, torturé, mort violente, on fait pas, il n'y a pas d'Iloula. Et donc on a remplacé en quelque sorte Rabbi Akiva par Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon? Parce que lui-même, Rabbi Shimon, il a dit à ses élèves, venez prendre modèle sur moi, parce que moi, ce que j'ai de bien, c'est la trouma de ce qu'il y avait de bien chez mon maître. C'est-à-dire, c'est un petit prélèvement de ce qu'il y avait chez Rabbi Akiva. C'est-à-dire, en fait, ils ont dit, vous pouvez copier ce que je vous dis, ce que je fais, parce que ce que je dis, ce que je fais, ça vient de Rabbi Akiva. Oui, extraordinaire. Oui.
Le reproche qu'il avait fait, c'est de ne pas se préoccuper de la transmission.
Alors, c'est pas dit exactement de cette manière-là. C'est peut-être en amont de la transmission. On pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire que si on s'imagine ce qui se passait, ils étaient là, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne donnaient pas de kavod? Ça veut dire que l'un ne donnait pas de poids, enfin, puisque c'était les groupes, c'est une chavrotot probablement, le groupe numéro 1 ne donnait pas de poids à un groupe numéro X, peu importe. Quel poids il aurait pu lui donner? Comment on donne du poids à quelqu'un quand on fait de la recherche, quoi, quasiment? Je vous ai déjà dit. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Alors, ils travaillaient tous sur le même sujet, à savoir la Torah. Mais bien entendu, chacun avait son chemin. Mais c'est ça la Torah. Dans la Torah, partout, quand on ouvre la Gemara, le Midrash, celui-là il dit comme ci, celui-là comme ça. Et d'ailleurs, on a demandé à Kadosh Baruch Hu, on a demandé à Eliyahu Hanavi, qu'est-ce que fait Hachem? Alors il l'a dit, il étudie la Torah. Dans les yeshivas d'en haut, il y a une yeshiva en haut, il étudie la Torah. Et alors, qu'est-ce qu'il enseigne? Alors il a dit, Kadosh Baruch Hu enseigne, Meir Beni, mon fils Meir dit comme ça, et Akiva Beni dit comme ça, etc. Et Shimon Beni dit comme ça. La Torah qui est enseignée en haut, c'est la Torah que les hommes produisent. La Torah chez Balpé, c'est les hommes qui doivent la produire. Alors, il y a tout un éventail, et c'est normal, cette pluralité-là, elle est absolument fondamentale. On ne peut pas imaginer qu'il y ait un seul chemin pour dévoiler la Torah. La Torah, elle a de multiples voies. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quoi. Il n'y a pas de voix qui disent qu'on ne fait pas Shabbat. Mais celui-là, il mettra plus l'accent là-dessus, etc. Il développera plus cette chose-là ou de cette manière-là. Bon, chacun a sa voix. Mais donner du poids à l'autre, c'est reconnaître que ce qu'il fait a aussi une valeur. C'est pas du tout. Or, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que, en fait, ils étaient tellement grands et ils se connaissaient tellement bien que chacun pouvait dire ce que l'autre allait dire. En vérité, nous, dans notre petit groupe ici, sur certains sujets, je pense que chacun d'entre vous sait ce que l'autre va dire. On sait très bien, si on dit quelque chose de genre là, je sais très bien, enfin, pas seulement moi, vous savez très bien que Thierry posera cette question-là, et puis Archel dira comme ça, et Ezra comme ça, etc. On sait très bien. Alors, nous, on ne se voit pas tellement souvent, et ça fait longtemps. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on travaille ensemble. Eux, ils se voyaient depuis toujours. Parce que c'est les meilleurs élèves des yeshivot. Ils étaient, c'est pas chez Rabbi Akiva qu'ils se sont rencontrés. Ils étaient dans les yeshivot de plus bas niveau. Ils étaient aussi ensemble. Peut-être pas tous au même endroit, mais ils se connaissaient tous. Et donc, en fait, c'est vrai qu'ils savaient. Je sais ce que l'autre dit. Mais je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que quand on parle, vous le savez probablement, quand on parle devant une assemblée de gens, quand on voit qu'on vous écoute, alors on a envie de parler. Et puis quand on voit que les gens, ça ne les intéresse pas vraiment, on est surtout pressé de terminer. Enfin, en tout cas, même à mon niveau, je le ressens très, très clairement. On n'a pas besoin que tout le monde écoute d'ailleurs. Il suffit qu'il y ait une personne dont on voit que cette personne-là, elle comprend. Elle est en train de comprendre ce que je dis. Du coup, c'est comme si ça donnait des ailes. Bon, voilà, j'ai envie de dire des choses et je vais en dire. Si on voit que les gens ne sont pas intéressés, tu vois, ça me coupe le souffle. Ouais, pas envie de parler. Alors on est payé pour parler ou on est obligé de parler, alors on termine, mais bon. Et donc, s'ils avaient écouté, ils auraient donné du poids à l'autre. Ah, et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire la même chose? Il va dire ce que je sais? Oui, c'est possible. Mais c'est impossible de dire exactement la même chose. Il va peut-être dire un mot différent. Ou il va faire un lapsus. Et moi, qui l'écoute, chez moi, ça risque de faire tilt. Et peut-être que moi, je dirais quelque chose. Donc, il est porteur, son enseignement, lui, quand on parlait de transmission, je lui permets de me transmettre. Je me mets dans la posture du récepteur de ce qu'il va dire, même si je connais.
C'est ce que vous aviez amené
par une autre année. Oui, je ne vais pas dire toutes les années la même chose. Alors.
Il sait tout faire, d'une certaine manière.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'ils sont morts de diphtérie, d'ailleurs, parce que c'est l'étouffement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, Et ça existe encore aujourd'hui, des gens qui n'ont pas à qui parler.
C'était presque de l'anti-Torah chez les Alpes.
Tout à fait. Mais parce qu'eux, ils disaient, mais moi, j'ai pas le temps, parce que moi, je développe ma Torah, je suis en train de perdre du temps à l'écouter, et puis en plus, je sais ce qu'il va dire. Pendant ce temps-là, je ne développe pas ma voix, quoi. C'est vrai que tu développes. Pendant ce temps-là, hein, éventuellement, tu n'auras pas développé. Mais peut-être tu auras une autre idée qui te viendra, qui va enrichir ton truc. Et puis, lui, il aura développé aussi. Et il y aura eu de la transmission. Ça veut dire qu'en fait, en plus, il va y avoir entre les deux qui vont, ils vont parler. Si à ce niveau-là, il n'y en a pas un qui va parler, l'autre va écouter bouche bée. Ils vont discuter. Et c'est ça. Shnaim shesh b'hem divrei Torah, b'nehem b'divrei Torah, shchina b'nehem. Il y a une présence divine entre eux.
Mais finalement, ça voudrait dire alors à contrario qu'ils ne suivaient que leur propre écoute, ils s'écoutaient eux-mêmes.
Oui, c'est pour ça que j'ai l'impression que, comme de toute manière, il pouvait parler, parce que c'est pour ça que c'est présenté. On ne dit pas qu'il avait 24 000 talmidim. On dit qu'il avait 12 000 paires de talmidim. Il fonctionnait par paires, c'est les chavotot. Donc il parlait avec sa chavota. Mais ne parlait pas avec la chavota voisine. Donc ils parlaient, ils avaient l'impression, oui, je parle, ça circule de la Torah entre nous. Mais en fait, eux, ils se connaissaient hein, encore mieux. Ces chavototes-là, ils se connaissaient encore mieux qu'ils ne connaissaient les autres. Voilà, on va s'arrêter là.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Je vous en prie.
Et d'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal à parler en ce moment, de surtout la mer s'avance.
Oui. Il faut prendre une soupe à l'orge.
Oui, mais vous me dites que j'ai été beaucoup frappé parce que c'est l'endroit des Kohanim qui va manger le maire.
Oui, c'est votre boulot, hein.
Oui, mais.
On n'est pas crâne pour rien.
On ne sait pas dans quel état on est.
Oui, je ne veux pas savoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Yaakov, tu es encore là? Je ne sais pas.